personnes dans la rue, les syndicats évoquent 3 millions de manifestants.
La plus rebelle des radios.
What you call is a diamond fella. All you little boys ever come in your parish. You better let your fellows get clean like a cello. I'm doing my thing, you're jealous like a cello. And you, what are you gonna do? Little boys get tamed like a shoe. You midsummer dreaming, your tunes ain't appealing. I'm capturing your money, you ain't feeling. I am the Julius Caesar, hear me. The merchant of Venice getting so you see me. As for me, all's well that ends well. Your boys like Macbeth, you're going to hell. Measure for measure, I am the best here. Your merry wives, the winds are not King Lear. I don't know about tomorrow, I know all's in Athens. I come back like Hamlet, you pay for your actions. Do it as you like. You much ado about nothing. All you do is buy it. I'm too tired, I don't need 12 mats. All your little tempers get murked on the mic. Of course, I am the one with the force. Your history just like Henry the Fourth. I'm fire, things look dire. Better run like Pericles, Prince of Tyre. Off the scale, cold as the winter tail. Tight as Andronicus was bound to fail. So will you ever call again?
Bonsoir. Il est 19h passé de 2 minutes.
Exactement.
Voilà. C'est l'heure du Canu Info et ce soir, on va vous parler de...
Alors ce soir, on ne va pas vous parler de Wauquiez et de...
Ah
de devant les... Parce que vraiment, on n'a rien à péter.
Ça, j'en suis sûr, l'émission d'avant, on a parlé.
Ah, ça serait leur genre. Mais on n'a pas vérifié puisqu'on était occupé à vous préparer les infos qu'on va vous donner maintenant. Ce soir, bon, après une petite histoire brève sur l'opération Barkhane, on en viendra au projet de loi asile et immigration qui a été présenté aujourd'hui en Conseil des ministres.
Ensuite, on parlera de ce que fait Colomb quand il débarque à Calais. Hein, c'est une grosse
sur les flingues.
Ouais, on n'est pas loin. Ouais.
Et après, on fera un petit séjour autour du monde avec des infos de ci de là sur Fujimori, sur la façon de se déplacer en Cisjordanie, sur la façon dont la France vend des armes au Yémen. Et on parlera un tout petit peu de la Saint-Valentin qui arrange bien le Figaro.
Et ce Canu Info...
On fera un petit conseil de lecture à la fin.
Ah, le fameux conseil de lecture. Et il se peut que vous ayez à faire un Canu Info qui ne soit pas très long hein, cette semaine.
Pas impossible, ouais. Alors on va quand même commencer par vous le dire, 2 soldats français ont été tués et un autre blessé. Ce matin, c'était à côté de Gao, c'est au Mali. Un véhicule blindé de l'opération Barkhane a heurté un engin explosif dans la région d'Indeliman, tuant 2 soldats français et en blessant un autre. Voilà, c'est certainement bien triste. Certainement bien triste. Bon, on sait que l'armée française, quand elle est en Afrique, elle fait des choses comme violer des petits-enfants ou des choses comme ça. Mais là, en l'occurrence, non, ils ont été tués. C'est-à-dire qu'ils ont plutôt fait ce pourquoi finalement ils sont payés, puisque c'est quand même bien des gens qui sont payés pour buter des gens, mais aussi pour risquer de mourir. Bon, ben voilà, ils sont morts. On va pas non plus s'éterniser sur cette histoire. Mais alors on va peut-être s'éterniser un petit peu plus sur le fameux projet de loi asile et immigration qui a été présenté aujourd'hui en Conseil des ministres avant plus tard de faire son petit tour par l'Assemblée nationale, par le Sénat, par blablabla pour être finalement peut-être certainement vraisemblablement voté à la fin. Donc le projet de loi que Gérard Collomb estime équilibré entre d'un côté un volet répression, d'un autre côté un volet pour améliorer les choses, pour faciliter les choses aux demandeurs d'asile qui sont des vrais demandeurs d'asile, Donc on rappelle les gens qui, alors dans la pure théorie, parce que dans la pratique c'est quand même pas du tout aussi simple que ça, mais dans la pure théorie, les gens qui sont poursuivis par la police de leur pays pour des raisons politiques, ceux-là peuvent légitimement venir en France et y rester. Les gens par contre qui n'ont rien à manger chez eux, ceux-là c'est très très mal s'ils essayent de venir en France, il faut plutôt qu'ils crèvent de faim à la maison. Quant aux gens qui ont juste envie de voyager, et ben ceux-là ils ont qu'à être nés dans un pays où c'est facile d'avoir des visas, autrement et ben tant pis, écoutez, les envies, hein, c'est comme tout, ça se calme.
Et pour l'avoir entendu récemment sur une radio concurrente de la nôtre, hein, excusez-moi, une des philosophies de départ, c'était une de ces justifications de ce projet de loi, c'était de dire, en fait, s'il n'y a pas de projet de loi sur l'immigration, c'est l'extrême droite qui reprend ce discours. Et donc, c'est un projet.
C'est ça. Si il y a toute cette philosophie qui est, si on va pas nous-mêmes taper sur les étrangers, de pire que nous s'en chargeront. Bon, en réalité, pire, ce qu'il y a, c'est que de toute façon, les étrangers s'en prennent toujours plein la gueule, et à la fin, que sur la matraque qui est estampillée, il y a un autocollant PS, un autocollant La République En Marche ou un autocollant Front National, c'est toujours la même matraque qui prennent dans la gueule.
Voilà, on peut rajouter par exemple que c'est typiquement ce qui est soutenu par exemple dans Valeurs Actuelles. L'autre fois j'étais dans les transports à côté de quelqu'un qui lisait Valeurs Actuelles. Oui, j'ai lisé par-dessus son épaule et c'est vraiment assez incroyable. Effectivement, c'est aussi incroyablement bourri que prévu, et donc l'éditorial concernant cette partie sur les migrants expliquait bien la position qu'on vient d'expliciter, qui va être finalement celle de Colomb, quoi.
Alors là, en l'occurrence, Colomb, on va pas revenir sur Gérard Colomb, hein, le maire de Lyon, on le connaît très bien. Le bonhomme qui, j'ai déjà dit plein de fois à ce micro, mais quand même, qui le premier a eu l'idée de couper les fontaines à côté des camps de migrants dans sa ville, de manière à ce que l'été, ils n'aient pas d'accès à l'eau du tout, ni pour se laver, ni pour boire, ni rien du tout. Donc quelqu'un qui, ma foi, a un grand cœur. Gérard Collomb, là, a quand même réussi à faire le tour de force de, pour la première fois, fissurer les rangs des députés La République En Marche, qui jusque-là avait quand même tout le temps été extrêmement discipliné. Et ben là, quand même, pour le coup, son truc est tellement trash qu'il y en a un certain nombre qui trouvent qu'ils sont pas arrivés là pour ça. Il faut dire aussi qu'il y a comme une sorte de... Enfin bon, on va pas s'attarder longtemps sur la politique politicienne. Mais on se souvient quand même qu'il y a eu une sorte de moment l'année dernière où on se disait que la seule différence entre Valls et Macron, qui étaient tous les deux des ultralibéraux, aucun des deux aimait les pauvres, tous les deux avaient cette idée que dans la vie, soit t'es un battant, soit c'est normal que tu t'en prennes plein la gueule. Mais il y avait une petite différence, c'est que Valls était de toute évidence hyper raciste et hyper répressif contre les migrants, alors que Macron, a priori, n'allait pas dans cette direction. Bon, finalement, il a pris Gérard Collomb comme ministre de l'Intérieur, et voilà ce qui se passe.
Sous-traité le racisme, quoi.
C'est ça, il a sous-traité le racisme. Mais du coup, un certain nombre de gens qui étaient avec lui à l'époque trouvent que là, ça va quand même vraiment un petit peu loin. Donc d'un côté, les députés de La République En Marche, d'un autre côté, des gens complètement inattendus. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'aujourd'hui, on a eu droit à une manifestation et à une grève des personnels de l'OFPRA et de la Commission nationale du droit d'asile, la Cour nationale du droit d'asile, la CNDA, qui est l'organisme qui est chargé d'examiner les recours quand la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA.
C'est-à-dire, pour résumer, en gros, quand on dépose une demande d'asile, on la dépose à l'OFPRA, bim, si elle est acceptée, c'est tant mieux, et si elle est refusée, après, c'est la CNDA.
C'est ça, qui réexamine le truc. Et donc, les fonctionnaires de ces deux organismes sont pas complètement réputés pour être hyper de notre côté, quoi. Nos amis, pour être complètement en soutien aux étrangers. En gros, on sait un peu qu'une demande d'asile en France, c'est vraiment, vraiment pas très facile si on n'arrive pas avec des cicatrices gigantesques de torture à électricité.
Et un certificat de la personne qui vous les a faites.
C'est ça, et un certificat de la personne qui vous les a faites pour être sûr que vous n'êtes pas accidentellement tombé sur un câble électrique. On a relativement peu de chances d'avoir l'asile. Bon, ces gens-là, aujourd'hui, ont quand même trouvé que là, le projet de loi de Colomb allait vraiment trop loin. En particulier pour une de ses dispositions, qui est de réduire le temps de réponse aux demandes d'asile. Mais donc, en réduisant le temps de réponse en été, ça va aussi énormément compliquer la tâche des demandeurs. Et du coup, alors les gens de la CNDA, eux, sont en grève depuis 9 jours jusqu'à aujourd'hui, en grève contre le projet de loi d'asile et d'immigration. et les gens de l'OFPRA les ont rejoints aujourd'hui, se sont aussi mis en grève pour la journée et sont allés faire ensemble une manif. Et il nous explique que, alors par exemple, il y a un gars qui est rapporteur à l'OFPRA et qui explique qu'il a un quota de 325 dossiers par an, c'est-à-dire un peu plus de 2 dossiers par jour. Et donc, 2 dossiers par jour, ça veut quand même dire que pour chaque dossier, qu'il faut qu'il examine le dossier dans un premier temps, et puis dans un deuxième temps, qu'il reçoive le demandeur d'asile, qu'il discute avec ses collègues, que nanana. C'est-à-dire que c'est des vies qui sont quand même suspendues à ce truc-là, quoi. Et donc il explique que le nombre de recours a explosé, qu'en 2017 il y a eu 53 581 demandeurs d'asile qui sont passés par cette juridiction. Pardon, ça c'est à la Cour nationale du droit d'asile, donc c'est que les recours. Et que cette augmentation, et que ce chiffre c'est une augmentation de 34% par rapport à l'année 2016, donc l'année précédente. Et ils expliquent aussi, tous ces gens de l'OFPRA et de la CNDA, que les demandeurs d'asile ont besoin de temps, eux, parce que y a des problématiques liées à des histoires de retrouver des papiers qui sont perdus, qui sont planqués, qui sont, des pièces pour leur dossier, quoi. Et que, à plein de moments, ça arrive qu'ils soient pas prêts pour le jour de l'audience. Et donc là, puisqu'on va passer de 6 mois à 9 mois pour les délais d'instruction, eh ben, ça va encore raccourcir le délai pour eux, pour trouver les preuves qui sont réellement poursuivies. Et donc, pour trouver le fameux certificat signé par le bourreau pour dire que c'est bien lui qui a torturé.
Ça vaut le coup de rappeler quand même que ce truc de raccourcir les délais de traitement de l'OFPRA, ça a été vachement utilisé par la gauche du PS ou quoi, pour comme un truc de progrès un peu. Genre, ah, on met les gens en attente pendant longtemps, c'est horrible, on peut pas laisser dans ces conditions-là aussi longtemps, on va raccourcir les délais de traitement et leur donner une réponse rapidement. Sauf que dans ces cas-là, on pourrait penser que c'est bien, mais quand même, comme bien souvent les réponses sont négatives, et bon, en fait ça fait aussi une durée, plus elle est longue mieux c'est, parce que c'est aussi une durée où les gens sont protégés par une carte, par un récipient.
Alors j'ai dit 6 mois et 9 mois, mais en fait j'ai dit des conneries. En tout cas, on va revenir dessus, parce que maintenant je vais détailler un peu ce qu'il y a dans le projet de loi, alors tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire présenté en Conseil des ministres, en sachant qu'il sera changé de toute façon en passant à l'Assemblée nationale, au Sénat, qui peut être changé plusieurs fois. Mais en fait, on va même repérer des choses qui sont mises dedans et qui sont tellement monstrueuses qu'elles n'ont visiblement pour rôle que de pouvoir être enlevé du projet de loi, ce qui permet, enfin c'est ce qui est toujours quand on présente un projet de loi qui est un peu controversé, c'est un coup complètement classique de mettre des choses qui sont vraiment très monstrueuses pour que les opposants puissent se focaliser dessus et que la loi qui soit finalement adoptée soit dégueulasse, mais que les opposants aient quand même l'impression d'avoir gagné quelque chose en enlevant les dispositions qui sont vraiment 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 tellement ignobles, quoi. Et là, on va en repérer une ou deux, hein, vous allez voir. Bon, mais alors dans les axes principaux et les choses qui soulèvent aussi pas mal de mécontentement, on a une facilitation globale des expulsions avec le doublement de la durée maximale de rétention qui passe à 90 jours. Et qui peut éventuellement, au-delà de ces 90 jours, être encore prolongé 2 fois de 15 jours. Donc on en est à
120.
Bah oui, 120. Pourquoi est-ce que là c'est écrit 135? C'est bizarre. Mais en tout cas, voilà, ça c'est un des points qui sont extrêmement controversés.
Pas controversé, c'est juste abominable. Effectivement, ça fait un tiers d'année à être enfermé, en rappelant de toute façon que ces personnes n'ont rien fait au niveau pénal, et puis donc sont enfermées juste par le fait que.
C'est d'autant plus une sorte de machin un peu, parce qu'il y a aussi toute la partie com et tout ça, mais en réalité, quelqu'un qu'on n'a pas réussi à expulser au bout de 30 jours, qui est la durée actuelle maximum 40. De rétention, 40, 45. Pardon, alors, mais de toute façon, il y a relativement peu de chances qu'on arrive à l'expulser après, c'est-à-dire que les gens globalement, soit ils sont expulsés assez rapidement parce qu'on sait dans quel pays les renvoyer, il y a un pays qui veut bien les accepter, soit de toute façon ils peuvent pourrir longtemps au centre de rétention, mais voilà, si on n'y est pas arrivé au bout de 2-3 semaines, il y a, globalement, ça veut dire qu'on n'y arrive pas par la suite. Mais ça, c'est le moyen pour Gérard Collomb de faire plaisir à l'électorat raciste, qui est de toute façon, on sait quand même, globalement assez majoritaire dans ce pays. la durée d'une retenue administrative. Alors ça, qu'est-ce que c'est une retenue administrative ? C'est vous qui avez l'air français-française. La partie des gens qui nous écoutent qui ont l'air français-française, si les flics vous arrêtent, ils peuvent vous garder pour vérifier votre identité. Bon, soit vous pouvez prouver directement votre identité grâce à une carte d'identité qui a l'air à peu près correcte et tout ça, et dans ce cas ils vous laissent partir. Mais si vraiment ils veulent vous faire chier et s'ils ont un doute sur votre identité ou si vous n'avez pas de carte d'identité sur vous, ils peuvent vous embarquer et peuvent vous garder jusqu'à 4 heures maximum au commissariat pour vérifier votre identité. Après, soit ils ont réussi à la trouver, dans ce cas ils vous laissent partir tout de suite, soit ils n'arrivent pas à avoir les preuves, mais au bout de 4 heures, de toute façon, ils n'ont pas le droit de vous garder.
Au-delà, ça devient une garde à vue.
Par contre, si ce qu'ils soupçonnent, c'est pas qu'ils ne savent pas votre nom, mais c'est que peut-être vous êtes en séjour irrégulier. Alors ça serait intéressant de savoir comment est-ce que la loi justifie que certaines personnes peuvent être plus que d'autres soupçonnées d'être en séjour irrégulier. S'il n'y a pas une histoire de couleur de peau et d'accent, c'est un peu bizarre, mais bon...
Voilà, enfin, c'est pour ça que c'est très explicite dans ce que tu dis, c'est bien raciste. Hein.
C'est de toute façon raciste. Et alors, tiens, à l'appel de ça, une anecdote, mais alors vraiment à la con, mais quelqu'un qui sortant du centre de rétention tombe sur un autostoppeur. L'autostoppeur sortait lui aussi du centre de rétention, mais la personne dont je parlais était visiteuse, mais l'autostoppeur lui venait d'être libéré. Il venait d'être libéré parce qu'il était noir et il avait un accent. De fait, il était martiniquais, c'est-à-dire qu'il était complètement français, mais au moment où les flics l'avaient contrôlé, bah, ils avaient trouvé qu'il était noir et qu'il avait un accent, que ses papiers étaient donc vraisemblablement faux, et il a passé plusieurs jours en centre de rétention à prouver que non, il était français, né français. Enfin, voilà ce que c'est aussi. Mais alors, donc, voilà. Si donc la police soupçonne que vous êtes en séjour irrégulier, elle peut vous garder non pas 4 heures comme si vous êtes français-française, mais elle peut vous garder 16 heures jusqu'à maintenant. Bon, à partir de maintenant, ça sera plus 16, ça sera 24.
Ah! Donc une longue...
On peut vous garder un peu plus longtemps et du coup Gérard Collomb explique que tout ça c'est parce que il faut être sûr de, parce que c'est ça, au bout des 16 heures si on n'a pas pu être sûr que vous êtes en situation irrégulière, on est obligé de vous laisser vous barrer.
Donc
là,
ça veut dire c'est
on aura 6 heures 8 heures de plus.
C'est 24 heures d'arbitraire.
24 heures d'arbitraire complet. Mais Gérard Collomb explique que c'est, si on n'a pas ça, autrement on en laisse encore partir plein. Et si on les laisse partir, et ben qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont djihader n'importe qui, n'importe où. Parce que bien sûr, de toute façon, tout ce projet de loi repose sur une sorte de moment où on a cette idée que les étrangers en situation irrégulière sont aussi de potentiels terroristes. On a cette idée contre toute évidence, puisque les terroristes, globalement, la plupart des terroristes qui ont agi en France ces dernières années sont des gens qui sont nés en France aussi.
Mais ça vaudrait le coup de regarder sous le contrôle de quoi auraient lieu ces 24 heures, sous le contrôle de qui ? Parce que par exemple les contrôles
de personnes,
ces 4 heures de contrôle d'identité là, c'est 4 heures où la police peut faire à peu près ce qu'elle veut, elle a pas trop besoin de justifier.
Ouais.
Une fois qu'on est en garde à vue, c'est le procureur qui doit décider. Donc là, ce serait éventuellement 24 heures que les chics auraient.
C'est ça, complètement.
C'est ça, 24 heures d'arbitraire de wild card, quoi, comme on dit en anglais.
Alors là, on arrive par exemple à un truc qui, j'imagine, est là pour pouvoir être enlevé, les articles dont je parlais tout à l'heure.
Ah oui, parce que ça vaut le coup de préciser quand même que les 90 jours, tout ça, il y a quand même de grandes chances que ça passe, oui. Au vu du nombre de jours en Europe moyen, tout ça.
Tout à fait. Mais là donc, on arrive à ce projet d'un délit de franchissement non autorisé des frontières extérieures à l'espace Schengen. Et là, on parle d'un an de prison et de 3750 euros d'amende. Donc pour les gens qui auraient franchi les frontières sans avoir eu le droit. Ça veut dire que même dans le cadre de cette fameuse histoire de demande d'asile, ça veut dire qu'avant de rentrer dans l'espace Schengen, il faut déjà avoir eu l'asile. Autrement, on risque un an de prison. Ça veut juste dire ça. C'est-à-dire que c'est un truc qui est complètement hallucinant, puisque du coup, ça veut aussi dire que l'asile, il faudrait le demander dans le pays d'où on est en train de s'enfuir en courant, parce que peut-être qu'on a la police de son pays qui est en train de vous courir après pour... délit d'opinion, pour vous torturer, pour toutes ces choses-là. Mais donc, il faudrait commencer par envoyer une demande en France de demande d'asile et ne pas franchir les frontières avant d'avoir eu la réponse. Vous imaginez que ça a l'air un petit peu dingue quand même. On parle aussi pour le 1 d'un projet de rétention possible d'un demandeur d'asile en cas de menace grave pour l'ordre public. Donc quelqu'un qui n'est pas condamné à une peine de quoi que ce soit, qui par ailleurs n'est pas débouté du droit d'asile. Bon, bah, on pourrait quand même l'enfermer. Parce que sait-on jamais. Alors, en cas de menace grave à l'ordre public, bon, après, c'est les juges qui déterminent ce que c'est la menace grave, mais en tout cas, c'est la porte ouverte à un paquet de saloperies.
Oui, puis c'est la menace à l'ordre public, donc ça peut être tout et n'importe quoi.
Ça, ouais, ça, ouais, c'est ça.
C'est aucune menace. Je veux dire, c'est, on peut, ouais, on peut appeler tout menace à l'ordre public.
C'est le flou total. Voilà.
Le flou total. Dans le projet, il y a aussi... alors, ça, c'est une sorte de bataille entre des avocats et des juges ou des préfets ou quoi, des dernières semaines et des derniers mois. Pour l'instant, ça existe déjà, mais c'est un peu flou de savoir si c'est légal ou pas. L'idée de faire des procès en vidéo-audience, c'est-à-dire que le juge peut être dans une cour à Paris. Alors, pour l'instant, en tout cas, c'est beaucoup des trucs qui existent à Paris. Le juge peut être dans une salle à Paris face à un écran avec Skype et la personne qui... alors en l'occurrence, c'est l'histoire de tribunal administratif et de juge des libertés. C'est-à-dire une fois que vous êtes enfermé, que vous êtes au centre de rétention et que vous demandez à en sortir, jusqu'à maintenant, on vous extrait du centre de rétention, on vous emmène à la cour et vous comparaissez. Bon, bah maintenant, ça serait par Skype. Le juge serait dans sa salle de tribunal, dans sa salle du palais de justice. Vous seriez dans une pièce de votre centre de rétention et le juge jugerait comme ça avec l'avocat. Alors l'avocat, on ne sait pas bien de quel côté il serait finalement, s'il serait plutôt au palais de justice ou plutôt dans le centre de rétention. Bon, à condition qu'il y ait un avocat, en tout cas, ça deviendrait juste possible. Et à ce moment-là, pour l'instant, la loi est pas très claire, donc ça fait de la bataille juridique. Là, ça serait un éclaircissement de la loi.
Alors, ça fait quand même plusieurs fois que... Enfin, ça a d'être une volonté assez forte des gouvernements successifs, de quelle couleur politique.
Ouais, carrément.
Du coup, est-ce que ça passera ou passera pas? C'est possible.
Moi, ça risque de passer, ouais. Après, une fois que votre demande d'asile serait par hasard déboutée, bon, bien sûr, en réalité, ça arrive vraiment, je ne sais plus les pourcentages, mais c'est 80 ou 90% des demandes d'asile qui sont déboutées. À ce moment-là, il y a toujours moyen de faire un recours. Donc aujourd'hui, les personnes déboutées ont 120 jours pour adresser leur demande. Ça c'est au départ. Quand vous venez de rentrer en France, vous avez 120 jours, donc 4 mois, pour adresser votre demande à l'OFPRA, votre demande d'asile. Et puis après, si on refuse de vous donner asile, si vous êtes débouté, pour l'instant vous avez un mois pour faire appel. Bon, à partir de maintenant, ça sera plus 120 jours, ça sera 90 jours après votre entrée en France. Donc là aussi, hein, ça demande de commencer à vous repérer, d'essayer de rassembler un peu à droite, à gauche des pièces et des machins. Et puis de faire votre demande. Et si vous êtes débouté, ça sera plus un mois, ça sera 15 jours pour faire la demande. Et donc ça, des avocats nous expliquent que si cela est encore tenable pour les personnes qui sont hébergées en centre d'accueil, les demandeurs qui n'ont qu'une domiciliation administrative n'auront pas le temps de préparer leur recours, car ils n'ont pas d'accès direct à leur courrier, ni aux associations qui pourraient les aider. Parce que c'est ça, un certain nombre de demandeurs d'asile, alors théoriquement, bien sûr, les demandeurs d'asile devraient être logés par l'État français, dans la pratique, il y en a très peu qui le sont. Donc ils logent à droite, à gauche, des fois 3 jours chez un cousin, 4 jours chez un pote et 5 jours dehors. Et donc, ceux-là, souvent, ils arrivent enfin, de toute façon, pour déposer une demande d'asile, par exemple, il faut une adresse. Et donc, on peut se faire domicilier dans des assos, des organismes qui reçoivent votre courrier et puis qui vous le donnent quand vous venez le chercher. Sauf que quand on a un mois pour faire le recours, eh ben bon, ça, c'est un truc qui peut marcher. Mais en 15 jours, ça veut quand même dire que... parce que alors, après, on imagine que c'est des vies qui sont pas toujours faciles. Hein. Vous vivez un peu dans la rue, vous vivez un peu machin. Vous avez pas de thune pour prendre le bus. Des fois, c'est pas évident d'aller voir son courrier tous les jours.
Surtout que c'est pas comme si il suffisait de se pointer à un endroit où on disait tiens, bon, ton courrier. C'est aussi des endroits où il y en a de moins en moins qui le font. Du coup, il y a énormément de gens qui le font à des horaires restreints. Du coup, il y a des queues. Par exemple, pour me réfugier, quand vous passez devant vos horaires, il y a des queues. Vous imaginez, c'est pas possible, quoi.
Et en sachant que pour y aller jusqu'à Forum Réfugié, enfin selon où on habite, mais c'est quand même c'est une sacrée trotte, quoi. Donc voilà, ça veut dire éventuellement que ça vous prend une bonne partie de la journée. Y aller tous les jours, c'est quand même pas forcément réaliste. Et donc voilà, si à ce moment-là, il faut récupérer son courrier, puis retrouver un avocat, puis 15 jours, en réalité, c'est court, et ça va faire sauter un certain nombre de ces demandes de recours. Certains ne verront peut-être jamais un juge, souligne un bon connaisseur du dossier dans je ne sais plus quel journal que j'ai lu tout à l'heure. Et puis après, qu'est-ce qu'on a encore ? On a expulsion facilitée vers des pays dits sûrs. Alors désormais, les demandes d'asile n'empêcheront plus de délivrer des OQTF. C'est-à-dire que vous pouvez demander l'asile, mais directement, on vous oblige aussi à quitter le territoire français avant de vous avoir donné une réponse, pour les demandeurs qui viennent de pays sûrs, comme l'Albanie ou le Kosovo. Si vous êtes albanais, si vous êtes kosovar, on estime que de toute façon, en vrai, votre gouvernement est plutôt cool. Et donc, on ne va pas se faire chier à examiner votre demande d'asile. On va plutôt vous dégager tout de suite.
Sous-entendu, ne déposez pas de demande d'asile, sinon vous allez avoir une fin.
Ouais,
c'est vrai. Une OQTF direct.
Tout à fait. Et donc ça, tout ça avec sur fond d'un petit discours sur, alors en particulier, bien sûr, les Albanais, de lutte contre certaines formes de criminalité, la délinquance en bande organisée, mais aussi la lutte contre le terrorisme. Donc ces gens-là, de toute façon, on sait bien, s'ils viennent ici, c'est pour être cambrioleurs ou pour être djihadistes. Donc de toute façon, le mieux, c'est de les dégager sans regarder la demande d'asile. Le demandeur débouté ne pourra plus solliciter un autre titre de séjour, sauf circonstances nouvelles. Alors ça veut dire que si vous faites une demande d'asile et qu'après, par exemple, vous vous mariez pendant la demande d'asile, parce que vous êtes tombé amoureux, parce que vous avez rencontré quelqu'un, vous vous mariez, et vous pouvez plus demander un titre de séjour pour autre chose que la demande d'asile. Donc si vous avez déposé une demande d'asile, soit elle est acceptée, soit vous dégagez de toute façon, quoi qu'il advienne et quoi qu'il soit passé dans votre vie. Orientation des demandeurs d'asile région par région pour équilibrer leur répartition sur le territoire. Donc ça, c'est pas vous qui choisirez où vous serez, mais c'est l'État qui vous dira, toi, tu vas en Meurthe-et-Moselle.
Alors ça risque pas... J'imagine qu'il y a quand même peu de chances que ça se fasse, ne serait-ce que parce que pour ça, il faudrait que l'État mette quand même sacrément du pognon sur la table, parce que ça voudrait dire qu'il faudrait qu'il mette en place des centres.
Qui arrive réellement à loger les demandeurs.
Ouais, c'est ça, ouvrir plein de centres partout en France, et ça n'a pas l'air d'être le cas, quoi.
Ouais. Alors, on a aussi, dans les autres mesures, on a une aide au retour volontaire possible pour un étranger placé en rétention. Bon, l'aide au retour, on te file de la thune pour que tu rentres chez toi, après, ce qui nous reste maintenant, c'est les mesures neutres à gentilles. Échange d'informations entre l'hébergeur. Ah non, ça, c'est pas très neutre à gentil. Échange d'informations entre les structures d'hébergement d'urgence et l'Office français d'immigration et d'intégration. Donc ça, c'est... Dans la suite de cette fameuse circulaire Colomb qui permet aux fonctionnaires de la préfecture de rentrer dans les structures d'accueil de gens qui sont à la rue pour vérifier que leur titre de séjour soit à jour.
Circulaire qui devait passer, enfin qui est passé devant le Conseil d'État
qui a dit oui, en fait, oui. C'est bon la circulaire. Bon, avec quand même quelques petites précisions, mine de rien, hein, que les gens peuvent pas être contraints à répondre.
Ouais.
Et c'est ça, qu'il n'y a pas de coercition possible à l'intérieur des structures d'hébergement.
C'est une première étape.
C'est ça. Après, on en arrive à ce qui fait que c'est une loi équilibrée, puisque là, on vient de parler de trucs qui concernent soit absolument tout le monde, soit l'écrasante majorité des gens. Mais maintenant, on a le côté, Gérard Collomb a quand même un cœur. Attention, et il tient à le préciser, hein, puisqu'on se rappelle qu'on a expliqué ici qu'il ne veut pas être vu comme le facho de service, même si bon, il a l'air de faire beaucoup d'efforts pour. Mais donc non, là, vous allez voir, il a quand même un cœur. Et par exemple, il y aurait une protection renforcée des jeunes filles qui risquent l'excision. Après, certainement qu'il faudra, prouver très très fort qu'on risque l'excision. Mais en tout cas, celle-là aurait une protection renforcée. Donc ça représente un tout petit pourcentage des gens qui demandent l'asile, bien sûr. Pour les mineurs, extension de la réunification familiale aux frères et sœurs. Alors, le texte prévoit en effet dans son article 3 que les mineurs réfugiés, qui jusqu'ici, alors bon, c'est si on est mineur et si on est reconnu réfugié, jusqu'ici on pouvait faire venir ses parents. Et maintenant on pourrait aussi faire venir ses frères et sœurs afin que la réunification familiale ne se fasse pas au détriment de l'unité familiale. En sachant que la plupart des gens qui savent à peu près marcher et parler sont considérés comme ayant au moins 20 ans. par quels que soient les papiers qu'ils puissent présenter, puisque de toute façon, si les papiers en question disent que c'est qu'ils ont moins de 18 mineurs, ans, ouais. On considère que les papiers sont faux, on les amène devant un toubib qui lui les regarde et dit non mais lui il a pas l'air si gamin que ça. Puis on les amène devant un psy qui dit oh là mais vous êtes venu jusqu'en France, oh bah ça personne n'est capable de le faire avant 18 ans, hein. Et donc ils sont déclarés officiellement majeurs, donc de toute façon cet article là ne servira à rien. Et enfin, le passeport talent est étendu à de nouvelles catégories. Bon, ça, c'est pour les premiers de cordée. Hein. Installation facilitée pour les étudiants chercheurs. Ça, Gérard Collomb a un cœur, mais il a un cœur quand même pour les winners.
Avec le portefeuille pas loin.
C'est ça, il a un cœur avec le portefeuille pas loin. Mais quand même, si, parce qu'il y a aussi des dispositions protectrices pour les victimes de violences conjugales. Ah. Bon, enfin voilà. Pour l'instant, ça. Donc là, ce que je viens d'expliquer, c'est ce qui est proposé dans ce projet de loi. On ne sait pas exactement ce qui en restera à la fin, mais en tout cas, on est sûr que ça ne prend pas une très jolie direction.
Ah, eh bien, on va continuer hein, sur. Sur Gérard Collomb et donc malheureusement pour sur les exilés hein. Et donc on va faire un petit point sur la distribution de bouffe à Calais. Alors petit rappel des faits hein, vous avez entendu cette surmédiatisation début février à Calais d'une baston entre migrants qui a éclaté sur un lieu de distribution de nourriture. Il y a eu 4 blessés graves, hein, quand même, ça craint, mais voilà, ça avait fait tout un énorme truc, voilà. Énorme truc, notamment dû à ce que Gérard Collomb débarque sur les lieux tel un nouveau Sarkozy, hein, on se souvient, à peu près, c'est à peu près une réaction, et déclare qu'il est intolérable que des associations continuent leur activité illégale de distribution de bouffe, tout ça, bah, c'est pas exactement ses propos, mais c'était à peu près le sens, hein, quand même. Et il a déclaré à ce moment-là qu'il donnait 15 jours au gouvernement pour reprendre le contrôle de la situation et que ce sera dorénavant l'État qui assurera ses distributions de nourriture. Hein, donc voilà, hein, on résume, hein, l'État met les exilés de Calais dans des conditions pas possibles où chaque jour est de l'ordre de la survie. Et quand ceux-ci, qui est forcément dans les pires conditions, en viennent à se foutre sur la gueule, et ben Gérard Collomb, sa crise cardiaque qui n'arrive toujours pas et ses acolytes se pointent sur les lieux, réprimande et menace ceux qui assurent le minimum pour survivre, c'est-à-dire quand même distribuer de la bouffe. Sauf que là...
Mais c'est que certains vont même jusqu'à me permettre aux gens de prendre des douches.
C'est ça. Non mais quand même, moi j'ai l'impression qu'on le répète tout le temps, mais à Calais, c'est-à-dire qu'on en est quand même réduit dans la situation là-bas, à ce que la distribution de bouffe, ce soit un point de cristallisation de plein de trucs. C'est-à-dire que là il y a une baston qui a éclaté, à un autre moment c'était les flics qui gazaient la bouffe. C'est-à-dire que c'est quand même le minimum, quoi. Je veux dire, on parle pas non plus de... Je sais pas, mais je veux dire, c'est quand même juste que des gens bouffent à un moment donné, qu'ils aient des papiers ou pas, voilà où on en est. Aujourd'hui, hein, ça fait donc 15 jours, hein, et sur place, les associations à Calais n'ont pas vu le moindre couillon distribuer le moindre colis alimentaire. Asso qui quotidiennement distribue 2500 repas à plus de 1000 personnes. C'est-à-dire que t'as Gérard Collomb qui se pointe, qui dit « Ah, c'est bon, moi, en 15 jours, je te règle tout. » C'est quand même de l'ordre de 2500 repas, c'est quand même pas rien. Et donc, oui, bah voilà, de fait, rien.
C'est pas rien. Ceci dit, Gérard Collomb a quand même énormément plus de moyens que l'assaut dont tu parles, qui est quoi, l'auberge des migrants.
Ouais, ils sont 3-4. Il y a Utopia 36. Enfin bref, il y en a 3-4 qui s'occupe de ça, qui s'occupe pas que de ça, mais notamment de ça. Du côté de ces assos, on s'attendait à ce qu'un lieu ouvre, voire deux, avec point d'eau, douche et de quoi manger et abriter, ce qui, eux, forcément, faute de moyens, n'ont pas. Parce que ils distribuent de la bouffe, ils se mettent en camion à des endroits fixes pour que ce soit connu des migrants et ils distribuent de la bouffe, mais forcément, ça se fait dehors. Voilà, encore un minimum. Et évidemment, ce n'est pas du tout sur cette voie-là que l'on compte s'engager. Les associations se tiennent prêtes, si l'État devait prendre en charge les distributions de repas. Elles se laisseraient un temps d'observation, voir si ça se passe bien et voir si l'État remplirait cette mission-là. Elles continueraient dans tous les cas leurs autres missions, qui seraient distribution de couverture et tout un tas d'autres services qu'elles rendent aux exilés sur place. Et se tiendront prêts, bien évidemment, à revenir si jamais il y a une carence de l'État.
C'est dire, en fait, ce truc de se tenir prête, c'est dire toute la confiance que les associations ont dans les services du ministère de l'Intérieur pour assurer d'un service correct, juste de distribution.
C'est ça. Quoi. Et du coup, ce service, il semblerait que ça se ferait en partenariat avec des associations. Il y a peu de chances que ce soit avec les associations qui distribuent actuellement de la bouffe, parce qu'elles sont plutôt en confrontation avec le ministère de l'Intérieur, qui les a insultées à plusieurs reprises. Et voilà, a priori, ce seraient des associations qui seraient un peu plus, respectueuses, c'est ça.
Radio. 19h36 sur Radio Canu dans le Canu Info. On va faire un petit tour sur certaines infos autour du monde. On va commencer par le Pérou où lundi, c'est Fujimori, donc Alberto Fujimori, qui a été, gracié. On va en reparler. Par rapport à tout ce qu'il a pu faire, il a eu une grâce présidentielle au courant décembre. Eh bien, il y a des...
Il était en prison pour toute une série de violations.
Ouais, on va y revenir. Voilà.
Qu'il a fait quand il était président.
Exactement. Du coup, il y a un tribunal qui a ordonné que cet homme-là, donc Alberto Fujimori, soit de nouveau jugé pour des meurtres commis en 92. Alors je vous réexplique un peu tout ça, on repart du début. Donc ça se passe au Pérou, donc en Amérique du Sud. Alors Fujimori, c'est nécessairement un nom d'origine japonaise, et en fait c'est qu'il y a eu des migrants, on reparle de migrants japonais. Faut bien voir que en fait le Pérou et le Japon, ça se fait face, si on oublie l'océan Pacifique. Donc il y a des migrants japonais qui sont venus notamment à partir de 1899, et c'était des agriculteurs. En tout cas, ça a bien marché pour eux du côté du Pérou. Puis il y a eu la famille Fujimori, et puis il y a eu ce jeune homme Alberto Fujimori qui, de fil en aiguille, a pris la tête du pays, alors en faisant deux choses sur deux axes assez sympathiques. Le premier, c'était, alors contrairement à ce qu'il avait dit dans sa campagne, c'était de libéraliser à fond l'économie sous la tutelle de la FMI, donc ça y allait plein pneu. Et puis de faire du répressif, de l'autoritarisme à gogo, en particulier avec l'arrestation et puis de l'assassinat, tout simplement, de milliers d'innocents et d'innocentes qui étaient des opposants. Et puis il s'est battu contre le Sentier Lumineux aussi, qui était un groupe marxiste voulait une autre type d'organisation, plus donc socialiste marxiste pour le Pérou. Voilà, donc Fujimori,
enfin, le Sentier Lumineux, c'était pas exactement nos amis non plus.
Non, c'était quand même pas des enfants de cœur non plus, mais toujours est-il que Fujimori a y allé pas avec le dos de la cuillère sur cette façon de traiter plein d'opposants et d'innocents, et que donc il a été jugé dans les années 2000, et il était en tôle. Voilà. Et tagada tsuan tsuan, il y a le nouveau président du Pérou qui a gagné les élections avec 50,12% contre Keiko Fujimori. vous dit quelque chose? Bah, c'était en 2016, c'était la fille de Alberto Fujimori, la fille du dictateur. Lui, c'est carrément la droite, hein, c'est la droite, c'est centre droit, comme on dit dans les journaux. En fait, c'est vraiment quelqu'un qui est inspiré par les aspects d'élite blanche, qui est bien branché sur le secteur privé, etc., etc. Alors, il s'est fait attaquer en décembre pour une histoire de corruption. Il y a eu une procédure de destitution contre lui, là, en décembre. Et au moment de se faire désinguer, destituer, pif paf pof, finalement il s'est pas fait destituer. Il n'y a pas eu, quand ils ont voté, il s'est pas fait destituer. Et trois jours après, cet homme-là...
Il manquait quelques voix pour ça.
Il manquait quelques voix pour ça.
C'était justement les voix des...
Alors justement, c'est pas aussi clair que ça, mais bon, voilà. il se trouve que trois jours après, c'est le hasard total, trois jours après le fait que finalement il n'a pas été destitué, en décembre 2017, il a gracié Fujimori. Voilà, il a gracié en lui disant que en fait, c'est vrai que bon voilà, il avait quand même fait des trucs super pour l'économie du pays. Donc ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait fait que en fait, il y avait plein de gens qui se sont enrichis et finalement le taux de pauvreté, il était resté le même avant et après Fujimori, mais en tout cas, il y avait plein de gens qui s'étaient surenrichis. Bon bref, cet homme-là était libre. Et donc c'est nouveau, ça vient de sortir cette semaine. Il y a des juges qui se sont secoués le.
Entre temps, il y a eu des énormes manifestations parce que les Péruviens, mine de rien, ce truc de libérer Fujimori, c'était un truc qui passait
pas très bien. Il y a quand même une grosse polémique, surtout trois jours après le fait de.
C'est ça, ce qui n'a pas été très malin
le président. Là, il y a un tribunal qui a réouvert. Donc une enquête, un procès contre ce Fujimori qui devrait donc pas finir ses jours dans la pure et pleine décontraction. Voilà, toujours dans les choses qui concernent cette semaine, c'est cette semaine, un petit peu rien à voir, hein, est sorti Manière de voir, Palestine, un peuple, une colonisation. Alors Manière de voir, vous devez le savoir, c'est une espèce de livret fait par le Monde Diplo, qui récapitule plein d'articles d'il y a longtemps ou d'il y a quelques temps sur un thème en particulier. Bon, voilà. Et là, c'est sur la Palestine, et je vous en parle parce qu'il y a une carte qui est très très explicite, qui montre en fait une carte de la Cisjordanie, avec en orange les zones qui sont contrôlées civiles et au niveau civil et militaire par les Palestiniens, donc c'est un petit peu de jaune. Il y a du orange où en fait au niveau civil c'est les Palestiniens, mais au niveau militaire c'est les Israéliens qui sont là. Et puis en bleu, il y a plein de bleu dans cette Cisjordanie, c'est en particulier les colonies, et ça c'est 100% contrôlé par Israël. Et juste pour qu'on comprenne un petit peu, évidemment c'est dramatique, mais juste qu'on comprenne que c'est la galère pour les gens qui habitent donc en Cisjordanie, il nous raconte ce qui arrive à un bon monsieur qui s'appelle donc Wissam Abu Burkan. Il a 46 ans, il habite à Ramallah, et donc il y a une carte qu'on peut retrouver donc sur le site du Monde Diplo et donc dans ce cahier Manière de voir. Et donc il habite à Ramallah et il faut qu'il aille donner cours de chimie à l'université à Bethléem. Voilà. Et en fait, avant il mettait 20 minutes parce qu'il pouvait, avant les accords d'Oslo, il pouvait traverser Jérusalem, alors que maintenant on n'a plus le droit de mettre le nez dans Jérusalem ouest quand on est donc palestinien. Et donc cet homme-là, il vit un enfer. En fait, il y a 50 bornes à faire, alors qu'à vol d'oiseau, il y a 20 bornes. Et donc, cette carte, je la montre à mes collègues, là, on voit... Alors, il part à 6h30. À 7h30, il est arrêté à un checkpoint où, en fait, il y a un énorme contrôle, il y a la queue, et puis il y a des inspections terribles avec une file de véhicules qui s'étire sur 1 km. Donc, c'est tous les jours. Donc que potentiellement cet être humain peut être considéré au checkpoint comme un vil terroriste. Après il continue, il passe dans des routes qui sont hyper sinueuses. Après il longe le mur de séparation israélien qui isole des endroits en fait qui étaient des localités palestiniennes, et maintenant il voit plus qu'un mur. Donc il dit je me remémore les collines à l'époque, mais maintenant il voit plus que des murs. Après, à 10h30, donc 2h après, hein, il arrive à un autre checkpoint, il prend une route sinueuse et dangereuse. Après, il croise sur une autre route, ce qu'on appelle une route à usage mixte. À usage mixte, ça veut dire qu'à la fois les Palestiniens et les Israéliens peuvent rouler dessus. Tu vois, on parlait de racisme, mais c'est... Voilà. Alors, il dit, voilà, s'il croise un colon, ils vont nécessairement pas prendre la même route, parce que le colon, lui, il a le droit de passer tout droit par Jérusalem. et alors que notre enseignant, lui, il peut pas. Donc, il peut pas accéder à la ville sainte et à Israël en raison de sa plaque d'immatriculation palestinienne. C'est aussi simple que ça. Donc, il continue son périple pour arriver, évidemment, en retard. Bon, alors ça, c'est un petit peu le jeu de ce papier de nous montrer ça. Mais voilà, c'est juste pour voir. Vous pouvez le faire, donc manière de voir sur le monde diplo, voir cette carte de la Palestine avec juste une trajectoire physique et puis de vie d'un être humain qui subit le contrôle militaire de la Palestine, de la Palestine, voilà, par Israël. Voilà, donc manière de voir, Palestine, un peuple, une colonisation. Et on reste toujours dans des infos du monde. On va regarder, je vous montre cette belle photo. Je pense que vous allez vous extasier. Vous avez tout de suite reconnu que c'est un canon César dont la France entière, nous les premiers, sommes fiers, bien sûr.
Ah oui.
Bon, alors on va aller au Yémen, je vous le dis tout de suite. Et puis je vous ouvre les guillemets tout de suite. Pour ce qui est des chars Leclerc, je vous confirme que leur implication au Yémen a fortement impressionné les militaires de la région. Donc ça, c'est Stéphane Meyer, c'était il y a un an, qui est PDG du groupe Nexter, qui fabrique donc les chars Leclerc, et qui est très très content. Il parlait devant la commission de la défense à l'Assemblée nationale. Donc il y a 80 chars Leclerc qui sont utilisés par l'armée émiratie au Yémen pour écraser la rébellion des outils. Donc, je vais vous en parler un peu. Donc ça, on est très très fiers des chars Leclerc. Évidemment, je dis ça avec cynisme. Alors je réouvre les guillemets. L'excellence de l'avion, donc on parle en l'occurrence du Mirage 2000. Hein. Là, l'excellence de l'avion et le succès du programme ont été démontrés avec brio par la grande disponibilité du Mirage 2000-9 et la qualité de sa participation à des opérations menées en coalition internationale. Alors ça, c'est un communiqué du groupe français Dassault qui dit bien que les Mirages sont super géniaux, super top du top, utilisés par l'armée des Émirats au Yémen. Alors, qu'est-ce qui se passe au Yémen? Il se trouve qu'il y a une espèce de sécession d'un sous-groupe qui s'appelle les Houthis, qui était une minorité qui était traditionnellement délaissée par le pouvoir en place donc au Yémen. Et puis, ils sont chiites, alors ça aide pas, parce que du coup, il y a une sous-couche de lutte éventuelle entre chiites et sunnites, mais n'empêche que c'est plus basé sur une partition du Yémen, quoi. Et donc, ça s'est, comme on dit, internationalisé, puisque, en fait, il y a une coalition emmenée par l'Arabie Saoudite qui est venue, essayer d'écrabouiller ces rebelles houthis. Et ça ne fait que s'envenimer. C'est un pays qui est très très pauvre. Et donc, si on regarde les rapports de l'ONU, il y a eu près de 10 000 morts, des millions de déplacés. L'UNICEF dit qu'il y a un enfant qui meurt toutes les 10 minutes là-bas, etc., etc. Il y a une énorme épidémie de choléra. Bref, c'est terrible, quoi. Voilà. Il y a des hôpitaux de Médecins Sans Frontières qui se sont fait cartonner, visés par des tirs, etc., etc.
Des Mais tirs de chars français.
Peut-être de tirs de chars français. Voilà. Justement, pourquoi j'en parle aujourd'hui? C'est parce que, par exemple, dans la présidentielle qui a lieu actuellement du côté de la Finlande, tous les candidats de la présidentielle ont dit que les ventes d'armes aux Émiratis, c'était fini à cause de ce qui se passe au Yémen. En mi-janvier, c'est l'Allemagne qui a été un des plus gros exportateurs d'armes vers le pays de la coalition qui fait la guerre au Yémen, justement, a dit arrêt immédiat des ventes d'armes à tous les partis du conflit. Ça s'est fait un petit peu ailleurs. Il y a la Norvège, la Belgique, le Canada qui ont dit qu'ils ont gelé les exportations. Mais nous, la France, elle est impassible et elle semble complètement épargnée par ce moment.
La France a un gouvernement qui n'est pas un gouvernement d'idéologues. Tu apprendras qu'elle a un gouvernement, c'est quoi le mot, un gouvernement
De gestionnaire.
De gestionnaire.
Voilà, et qui est des gestionnaires. Et en fait, ils considèrent que, évidemment, en fait, derrière les armes vendues au Yémen, il y a des gens qui meurent, mais
what the fuck. Mais il y a surtout du pognon.
Mais il y a surtout c'est toujours cette histoire des emplois. Et en fait, c'est des emplois qui sont sous perfusion des contrats français. En fait, l'État français fait le super VRP des entreprises d'armes, de l'armement, sous prétexte que c'est parce qu'il y a de l'emploi, mais en fait, on pourrait fermer toutes ces usines d'armement, diviser le temps de travail par deux, et puis tout le monde aurait du boulot, quoi, avec tous les gens qui sont dans les usines d'armement. Bref, on veut pas faire ça. Et tout ça pour dire, donc, c'est un article qu'on peut retrouver
sur Basta,
parce que je me fais souvent chicaner parce que je parle souvent de ce journal. Et bien, ce sera une.
Attention, c'est pas une critique au journal.
Non, mais c'est vrai que. Voilà. Au Royaume-Uni, il y a une commission parlementaire qui s'est mise en route, et en France, il n'y a rien. Vous pouvez retrouver donc ce journal. Mirage de cet article, Lords of War, Mirage 2000, Charles Leclerc, Canon César, la France, fournisseuse officielle du carnage. Une minute. Alors, cette fois-ci, pour citer encore une source d'information intéressante, c'est Acrimed, Action Critique Média, qui nous parle d'autres journaux, des journaux en particulier d'information, où il y a des vrais journalistes, de vrais journalistes. Peut-être pas le journal qu'on préfère, gloups, le Figaro. Et on va parler de la Saint-Valentin dans le Figaro, plus exactement dans toutes les pages web du Figaro. Et en fait, ils se sont amusés à compter, ils ont bien fait d'ailleurs, qu'il y a eu 25 pages, 25 éléments, articles en tout cas, dans le Figaro, pendant les 3 jours de la Saint-Valentin, qui étaient de la pub déguisée, du style « Ah, la Saint-Valentin, c'est trop bien, tu peux t'acheter une Rolex, ça fera plaisir. » Quoi. Voilà. Donc il y a eu... allez voir ça, hein, c'est assez drôle, parce que ça montre à quel point un journal peut être à la solde du business, quoi. Donc le titre du papier, c'est « Pour la Saint-Valentin, le Figaro déclare sa flamme aux annonceurs », et ils ont bien raison. Donc il y a 56 articles sur la Saint-Valentin avec de la pub qui ont été détectés dans un tout petit mois du Figaro. Alors il y en a pour tous les goûts. Il y a quand même un édito à un moment donné que je vais vous lire. Écoutez bien, c'est donc dans le Figaro, enfin le Figaro ou une ressuscité du Figaro, Figaroscope, Figaro Madame. Dans les couples, les plus épris sont souvent les plus déçus. Ouvrez les guillemets. Ce soir, j'aurai ma bague. Ça ne peut être qu'aujourd'hui. Fermez les guillemets. Eh bien non, cocotte. La nymphette est conduite en sera quitte pour une indigestion de champagne et un trop-plein de foie gras. Et l'amoureux pourra souffler. Ouf, je l'ai échappé belle, je suis tranquille pour un an. Mais à l'heure du tout numérique, quel est l'avenir de la Saint-Valentin? Voilà. Donc ça, c'est dans le Figaroscope. C'est quand même assez terrible. Alors il y a des articles. Ou alors, en fait, si vous faites gaffe, c'est un tout petit peu ceux qui vendent qui l'écrivent. Alors, il y a l'article « 10 hôtels pour un voyage romantique ». Alors, en fait, c'est écrit en collaboration avec Idilise, qui doit être une boîte qui fait de la vente d'hôtels, quoi. Il y a des cadeaux chics pour un Saint-Valentin réussi. Et ça, c'est rédigé avec un truc qui vend des cadeaux chics, visiblement. Alors, sur leur compte Facebook, Twitter et Instagram du Figaro, il y a plein de trucs... Notamment si tu joues, tu peux gagner pour la Saint-Valentin des articles cadeaux. Et après, il y a toute une liste des cadeaux que tu peux avoir, et c'est toute une liste de marques. Donc ça s'appelle de la pub déguisée. Bon, je vous passe un petit peu tout. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a c'est un grand mélange des genres entre le commercial et le journalistique, et c'est vraiment dégoulinant, et c'est dans le Figaro. Il faut quand même que je vous ressorte 2-3 trucs. Ah oui, il y a aussi une composante sexiste bien trempée.
Déjà avec ce que tu nous as lu, c'était déjà.
Voilà, mais là c'est pas mal dans Figaro Madame. De la lingerie pour lui faire voir rouge le soir de la Saint-Valentin. Donc c'est un nom d'article. Ou un autre, robe, bijoux, lingerie. Quelle tenue pour le Saint-Valentin. Voilà. Et puis d'autres trucs abominables, bien sexistes, dans ce super programme du Figaro. Donc un petit article d'Acrimed qui nous fait plaisir à surveiller un petit peu ce qui doit se passer dans les journaux. On rappelle que le Figaro et toutes ses ressucées, c'est censé être carrément de droite, mais n'empêche que c'est censé être écrit par des journalistes. Ben, c'est peut-être plus tellement des journalistes qui écrivent, c'est aussi des annonceurs, quoi. Voilà. Voilà, on va terminer par un conseil de lecture. Bon, c'est un peu toujours la même voix, hein. Mais je vous conseille ce livre.
Il n'y en a qu'un le livre de Kay Miller qui s'appelle By the Rivers of Babylon.
Et voilà. Comme on est à la radio et que vous voyez pas la couverture, c'est une couverture avec des ronds, avec plein de couleurs, et magnifique.
C'est magnifique.
Et aux éditions.
aux éditions Zuma et qui est traduit donc.
Ah, c'est pareil, t'aimes bien cette maison d'édition. Hein. C'est un peu.
Non, mais c'est un peu le hasard, je pense. Mais ce qui est intéressant, c'est que Babylone ici. Celles et ceux qui sont familiers du reggae, c'est le Babylone qui représente en fait l'État, la police, enfin tout ce qui se fait de potentiellement répressif et si le business dans le verbiage un petit peu du côté de la Jamaïque et du côté un petit peu du côté Rasta. Donc en fait ça a la particularité d'effectivement d'être un livre qui se passe en Jamaïque. Dans le quartier pauvre de Kingston qui s'appelle Augustown. Alors j'ai pas réussi à comprendre si c'était un vrai quartier ou si c'était un quartier fictif. Et voilà, donc ça se passe en Jamaïque et ça a été écrit par donc Kay Miller qui est donc de Jamaïque. Donc c'est assez rare pour être précisé. Et puis c'est un roman. Hein. L'histoire met en scène un petit Rasta qui rentre de l'école et qui s'est fait en fait autoritairement raser la tête. On lui a rasé ses dreads. C'est plus exactement le prof de l'école qui lui a rasé ses dreads. Et il rentre chez sa grand-mère. Et il se trouve que pendant les 200 pages de ce bouquin, en filigrane va nous être présenté finalement la structure de classe qui existe donc du côté de la Jamaïque. Il va y avoir une part assez importante, notamment dans le début du bouquin, où en fait la grand-mère de cet enfant dans son quartier, elle a assisté à des exactions de la police qui ont fait notamment un meurtre d'un gars qui avait été faussement accusé, évidemment un black. Hein. Donc la police est arrivée, l'a buté. Et cette grand-mère accompagne un loulou du coin pour ce loulou-là aille se venger contre la police. Donc c'est vraiment une histoire qui décrit en toile de fond donc ces relations entre les pauvres et les très pauvres. Et puis donc la couche un peu plus riche du côté de la Jamaïque et puis aussi la police et l'État et l'école aussi qui justement donc aura par les mains du professeur rasé les dreads de ce jeune Rasta. Donc Kay Miller, By the River of Babylon, c'est vraiment un bouquin qui a la particularité, il me semble, de parler de la Jamaïque et de ce qui s'y passe et probablement un livre qui vous fera du bien à lire. Voilà.
Eh bien, il est 19h56. Ce Canu Info est fini.
Allez, on rappelle quand même que ce samedi, pour les gens qui voudraient bien aller jusqu'à Saint-Étienne pour une petite manif carnavalesque, à 14h, rendez-vous devant la Chambre du Commerce et de l'Industrie pour un carnaval, le carnaval Béton va Béton. Ah mais tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas derrière toi un petit CD de jingle?
Ah, et on l'a volé.
Ah, on n'a plus le CD.
En tout cas, un
carnaval contre les grands projets inutiles plus locaux du coin, et en particulier le projet d'autoroute A45 qui est en voie d'être abandonné, mais tant qu'à faire, autant lui faire un enterrement de grande classe. L'extension de la carrière de Pierre de Saint-Julien-Molin-Molette et deux ou trois autres petites saloperies dans le coin. Donc, grand carnaval à Saint-Étienne, ce samedi 14h, devant la Chambre du Commerce et de l'Industrie.
Et dimanche à 15h, place Jean Massé, il y a une manifestation pour soutenir les habitants et habitantes d'Afrine qui se font massacrer par le gouvernement turc. Venez nombreux et nombreuses malgré la complexité de la situation actuelle. On a fini. On va laisser quelques minutes de bande continue.
Et puis pour celles et ceux qui ont envie de voyager aussi, si vous voulez aller faire un petit tour samedi ou dimanche, une petite promenade du côté de Chambéry, il y a le local tout neuf des fachos de Chambéry qui s'est fait recouvert de peinture rose.
Ah.
Donc ça fait quelque chose qui peut être sympa à aller voir.
En tout cas, merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine.
Ou celle d'après au pire.
Ou celle d'après.
Ciao.
Ciao. Voyage,